Donc, journée sur la valorisation des archives régionales. C'est vrai que nous, on a un peu un déficit de publicité sur nos fonds d'archives qui fêtent quand même leurs 50 ans cette année. Et c'est pourquoi, en fait, le bureau, on a voulu vraiment mettre en avant nos actions de valorisation, faire un bilan de nos actions, en fait, dans ce domaine. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à mettre en avant? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce qu'il y a des points difficultés à faire ressortir? Et pour commencer la journée, on a donc décidé de faire un... Donc, on vous a transmis à tous les archivistes régionaux un questionnaire sur vos pratiques en termes de valorisation. C'est un questionnaire qui faisait écho à une étude, en fait, qui avait été faite en 2014, au cours de la journée d'études de la section 2014, et qui faisait un peu un bilan de la valo et aussi des actions en interne. Il y avait vraiment les deux il y a 10 ans. Et là, on se penche sur la valorisation. L'intervention, pardon, va porter sur le bilan de ce questionnaire. On va vous faire une petite analyse, une petite synthèse, en fait, de nos actions de valorisation en région.
Alors, pour commencer, il y avait une petite partie de questions sur la présentation des services et de leur contexte de travail. Déjà, vous dire qu'on a eu 13 réponses à ce sondage qui a été lancé au printemps, ce qui est un taux tout à fait honorable. Juste pour mémoire, en 2014, l'enquête qu'on avait faite, on avait obtenu un petit peu plus de réponses, mais à l'époque, on n'était pas dans le contexte de région fusionnée qui est intervenu quelques années après. Donc, on aboutit quand même à un très bon taux de réponse sur cette enquête. On va essayer de faire la comparaison entre 2024 et 2014. Avec cette histoire de fusion, ça peut être un petit peu compliqué, mais on a essayé de le faire autant que possible pour cette enquête. Alors, il y avait une première question qui était sur le rattachement du service qui a les archives régionales en responsabilité. J'ai mis dans la slide le nuage de mots, surtout pour les deux premiers mots qui apparaissent vraiment très fortement, qui est la notion de moyens généraux, puisque la grande majorité des services, en fait 9 sur 13, sont dans une direction qui est plutôt d'administration générale, de moyens généraux. Certains avec une composante un peu juridique qui apparaît dans le titre, mais on est vraiment sur cette notion-là de service au service des autres services de la collectivité. Cependant, on a quand même deux services qui sont rattachés à une direction culture, qui sont l'Île-de-France et le Pays de la Loire. Une direction qui est plutôt numérique, avec une notion d'information dans l'intitulé. Je pense à Occitanie avec cette direction de l'information et du numérique. Et puis par rapport à 2014, juste pour faire la comparaison, on est aussi sur, pareil, le même prédominance de rattachement de type moyens généraux, administration générale. Sur le nom du service, je passe assez vite, juste pour vous dire que le mot archive apparaît dans toutes les appellations du service, qui est quand même intéressant pour la visibilité de la fonction. Certains avec vraiment l'appellation archives régionales qu'on utilise dans le réseau des services d'archives publiques. Et puis, quelques termes qui ressortent souvent associés aux termes d'information, gestion, stratégie, diffusion de l'information. Et puis, à noter également que 5 services aujourd'hui constituent un service commun avec la fonction documentation de la collectivité. Alors, une première question qui était plus sur les ressources humaines pour la valorisation des archives régionales. Avez-vous un ou plusieurs archivistes dans votre équipe dont les missions principales sont la valorisation? Donc, vous voyez, on est sur ce pourcentage. Le pourcentage de oui correspond à 5 réponses qui sont en réalité à nuancer parce que l'une d'entre elles indique plutôt que c'est l'ensemble de l'équipe. Donc, on serait plutôt sur 4 réponses sur 13. Et pour ces 4 services qui ont répondu oui, les moyens consacrés à la valorisation oscillent entre une et deux personnes. On est sur ce niveau-là. Un service précise qu'une personne assure le pilotage de cette activité et sa mise en œuvre sur une partie de son temps de travail. En tout cas, pour ces services qui ont répondu oui, toutes les personnes qui assurent ces missions ont suivi des formations, une ou des formations en la matière. Pour les services qui ont répondu non, Ça ne veut absolument pas dire que rien ne se fait. C'est plutôt soit que les actions sont faites de manière polyvalente, soit qu'il n'y en a pas vraiment, ou qu'il y a des projets ou des choses assez ponctuelles. Donc non ne veut pas dire que rien ne se fait, en tout cas. Les publics qui sont priorisés dans les actions de communication de manière générale, là, pareil, sans surprise, aucun service ne priorise que le public externe. En tout cas, on a quand même une prédominance des services qui priorisent le public interne dans les actions de communication. Et on retrouve 4 services qui priorisent, enfin, pour lesquels les 2 publics sont importants. Sur les moyens plutôt financiers, on avait une question sur le mode de financement avec des réponses déjà pré-proposées. Les réponses les plus importantes numériquement indiquent qu'il n'y a pas de budget dédié à la valorisation, ni actuellement ni par le passé. Ça représente à peu près 9 réponses. 3 services indiquent que ponctuellement il y a pu y avoir prélèvement d'argent sur le budget d'un autre service ou d'une autre direction. En général, dans les commentaires, on voit que c'est plutôt soit la communication, soit le service patrimoine pour ces services. Et puis un service, là, les 7%, indique qu'il y a un budget qui est dédié à ces actions et qui précise dans les commentaires que ce budget, en fait, est de 1 000 euros et qui concerne des supports de communication, la réalisation de supports de communication. Ce qui est intéressant dans cette partie du questionnaire, c'était aussi les réponses en texte libre. Donc je vous en cite quelques-unes. On fait avec les moyens du bord. Il n'y a pas de budget parce qu'il n'y a pas de projet de valorisation par manque de ressources humaines à y consacrer. Mais néanmoins, s'il y avait un projet, il n'y a pas d'inquiétude sur la possibilité d'obtenir un financement, soit sur le budget archives, soit sur le budget d'autres directions. Et voilà, sur les recours au budget, effectivement, c'est soit le service patrimoine, soit la communication interne, externe.
Alors, en ce qui concerne les actions de valorisation, notamment sur la création de supports, la majorité des services ne réalisent pas de supports à destination du public externe. Sur 13 services d'archives régionales, seulement 5 créent des supports. En 2014, les services étaient aussi peu nombreux à communiquer en externe. La tendance est plutôt à la réalisation de supports numériques. Cette tendance du numérique était déjà visible en 2014. Concernant les expositions, donc la participation ou la préparation aux expositions, 69% des répondants ont déjà réalisé ou participé à des expositions, dont 28% avec plus de 5 expositions à leur actif. En 2014, 35% des répondants seulement avaient déjà participé à une exposition. Ces expositions, elles ont tendance à concerner donc les lycées, les bâtiments des conseils régionaux, les compétences de la région, mais aussi la pratique archivistique. Il existe d'autres thèmes plus spécifiques, comme la valorisation de fonds anciens. Donc on peut citer l'exposition « Dessine-moi un blason », donc région Grand Est, Aix-Alsace, ou encore une exposition des objets reçus lors d'échanges internationaux pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ces expositions, elles peuvent se faire en partenariat avec la direction de la communication ou le service de l'inventaire. Concernant les publications, donc un peu plus d'un tiers des services d'archives régionales réalisent des publications sur ces fonds. Donc comme pour les expositions, on retrouve des thèmes majoritaires comme les lycées, les bâtiments des conseils régionaux, mais on a aussi des publications régulières sur des sujets divers, par exemple l'archive du mois pour la région Pays de la Loire, mais aussi des publications via des revues scientifiques comme les archives en Limousin ou des articles coécrits avec le service de l'inventaire sur leur site internet pour la région Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, sur la participation aux Journées européennes du patrimoine, un peu plus d'un tiers des répondants participent aux Journées européennes du patrimoine. Sur les 5 services, 3 y participent rarement et 2 très fréquemment ou tous les ans. Donc on remarque une hausse depuis 10 ans, Si on compare avec 2014, il n'y avait que deux répondants qui participaient aux Journées européennes du patrimoine. Ensuite, pour les projets de développement, on a 46%, donc un peu moins de la moitié des répondants, qui ont un projet de développement de la valorisation à destination du public externe. Parmi les actions envisagées, on a d'abord la publication d'instruments de recherche, puis la préparation ou la participation à des expositions virtuelles et des contenus culturels élaborés avec les archives du service, comme par exemple l'archive du mois, mais aussi la mise en ligne de fonds numérisés. On a aussi parmi les actions envisagées la publication des informations pratiques relatives à l'accueil des lecteurs, ou encore la préparation et la participation à des expositions physiques. 54% des services d'archives n'ont pas de projet particulier de valorisation, car le personnel est insuffisant et la valorisation n'est pas une priorité. Il y a déjà une mobilisation sur la valorisation en interne ou sur l'archivage électronique. Néanmoins, il y a une volonté d'avoir plus de visibilité sur le site internet de la collectivité ou de déployer un portail de valorisation en ligne.
En parlant de site internet, voici maintenant quelques chiffres, quelques informations sur la présence en ligne des services d'archives régionaux. Donc en 2014, on avait quatre services qui avaient un site, enfin qui apparaissaient sur internet, en tout cas sur 16 réponses, donc un quart. Aujourd'hui, 6 services apparaissent sur internet sur 13 régions, donc il y a une progression. Deux services ont un site dédié. Ce sont les régions PACA et Hauts-de-France. Donc, par rapport à ces chiffres, donc, on a donc une évolution des services visibles sur Internet. Mais par contre, on a quand même 7 services qui n'ont pas de site, ni dédié, ni n'apparaissent sur le site de leur région. C'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'ils ne sont visibles que sur le site de France Archives. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve justement sur ces sites? Bah, comme en 2014, finalement, il n'y a pas trop de différence. Il y a essentiellement des informations pratiques et des instruments de recherche. On note l'apparition tout de même de fonds numérisés. On a 3 réponses dans ce sens. Et donc là encore, on retrouve la région PACA, les Hauts-de-France et le Grand Est notamment. Maintenant, la présence des services régionaux sur les réseaux sociaux, bah, c'est assez linéaire finalement. Un service en 2014, un service en 2024. Ce sont les Pays de la Loire. Bravo. Après, voilà, on peut peut-être se poser des questions. Pourquoi cette absence? Raison politique, raison de bras, raison de personnel, manque de temps. Ah, ça sera l'occasion d'une nouvelle étude. Et enfin, un slide sur la démarche de l'Open Data. C'est un peu compliqué de comparer les deux années parce que on n'a pas exactement le même type de réponse. C'est assez similaire entre 2014 et 2024. On a 2 services qui, cependant, ont abandonné cette démarche. 4 qui sont en projet, donc c'est plutôt encourageant. Alors, ces 4 services sont l'Occitanie, la Guadeloupe, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Île-de-France. Maintenant, à vous de nous tenir au courant de vos actions à l'occasion des prochains Cafés Archives. Surtout, n'hésitez pas. Oui, vraiment les Pays de la Loire qui sont les plus actifs en ligne.
Alors, pour l'ouverture au public, donc dans le détail, alors non, là, pour l'ouverture au public, on n'avait pas vraiment de données de 2014, hein, donc on s'est concentré sur nos données 2023. Donc dans le détail, on a, alors généralement, on a 84 lecteurs pour 2023 dans les services d'archives régionaux pour 163 séances de consultation. 84 lecteurs pour 18 régions, pour une année, c'est quand même assez peu. Mais bon, c'est bien de le dire, c'est bien de le remarquer, que là, vraiment, voilà. Il y a des progrès à faire. Dans le détail, donc 23%, et ça c'est vraiment, je trouve, énorme, 23% des services d'archives n'ont accueilli aucun lecteur externe en 2023. Et pour le reste, 70%, c'est moins de 10 lecteurs à l'année. Là, on est vraiment sur des chiffres qui témoignent de la difficulté, enfin l'absence qu'on a d'activités liées en fait à la valorisation, à la mise à disposition en réalité de nos archives, quoi. Bon, les séances de consultation, c'est entre 1 à 10 en général, ou entre 20 et 40, à peu près moitié-moitié. Voilà. Donc, c'est pas énorme. Pour ce qui est des salles de lecture, parce que bon, c'est bien de parler du nombre de lecteurs, mais il faut aussi faire un bilan des espaces qu'on a en fait pour mettre nos archives à disposition. Donc là, se poser la question, est-ce que les services d'archives régionaux ont des salles d'archives en fait, une salle d'archives dédiée ou des espaces de consultation? Et là, on s'est rendu compte que en 10 ans, ça n'a pas bougé en fait. C'est à peu près les mêmes réponses. On avait 50% des services d'archives répondants en 2014 qui possédaient une salle de lecture dédiée. 100 ans, salle de lecture, c'est un endroit où c'est une pièce qui est réservée à la consultation, où il y a des inventaires disponibles et voilà, qui est vraiment sanctuarisée pour les lecteurs. En 2024, enfin pour l'année 2023, on a donc 53% des services qui possèdent une salle de lecture dédiée. Donc c'est peu en fait, hein, et je trouve que voilà, encore une fois, ça caractérise le fait que même au sein de nos locaux, on n'a pas encore identifié pleinement un espace pour cette partie en fait importante de nos activités et de notre métier en fait. À noter que on a 2 régions. Qui partagent depuis 10 ans, donc c'est les mêmes. Hein. On a 2 régions qui partagent leur salle de lecture avec un autre service. Donc c'est soit le service du patrimoine, soit la doc, la documentation. Donc ça classique. Hein. C'est quand même des métiers proches de nous au conseil régional. On va voir aussi. Alors je ne sais pas si j'en parle dans les slides d'après, mais c'est une chose. On pourrait se dire c'est une bonne idée en fait de mutualiser pour avoir des espaces, parce que généralement la doc elle a quand même dans les conseils régionaux, des lieux bien adaptés en fait hein, pour la réception du public. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que les 2 régions qui ont des salles de lecture mutualisées, elles dépendent hiérarchiquement de la culture. Et donc, il y a vraiment une gémellité en fait à assumer entre les archives, l'inventaire et la doc. Donc voilà, c'est important de le remarquer. La plupart des régions, 85%, proposent un accueil sur rendez-vous. Voilà. Donc, bah, évidemment, quand on n'a pas vraiment des espaces de consultation à proprement dit, on n'ouvre pas les archives toute la journée à spontanément, en fait. Donc, on prend sur rendez-vous. Il y a 1 région, toutefois, qui propose un accès libre toute la semaine et qui a une vraie salle de lecture. Et il y a une région qui n'est pas présente en ligne et qui ne propose aucun accueil. Enfin, en tout cas, il n'y a pas sur Internet, il n'y a rien en fait, hein, donc il n'y a pas de possibilité de prendre rendez-vous. Les actions pédagogiques, donc là encore une fois, il n'y a pas vraiment d'évolution, sur 10 ans. On note quand même qu'il y a un public d'universitaires qui a émergé parce que en 2014, aucune région n'avait déclaré des actions auprès d'universitaires. Généralement, c'est des cours, tout simplement, des cours d'archivistique qui sont donnés en partenariat en fait avec l'université du coin. En 2024, on peut dire que il y a quand même 3 régions qui accueillent des universitaires pour des cours. Sinon, ça va être des lycées en fait. Bon, il y a une disparition du collège parce qu'il y avait quand même une région qui faisait des actions pédagogiques. En 2014, ce n'est plus le cas, manifestement. Et voilà. Donc, en global, on a 31% des régions qui réalisent des actions pédagogiques en 2023. C'est pas énorme. Parole d'archiviste. Alors, dans au questionnaire, on vous avait proposé en fait de vous exprimer sur ce sujet, de dire un peu comment vous ressentiez la chose en tant qu'archiviste, hein, comment vous le viviez en fait. Donc, en 2014, évidemment, il y avait une prépondérance sur un constat assez pessimiste. Les archivistes ne se sentent pas reconnus par la hiérarchie, ont du mal à se faire connaître et à faire connaître surtout la vocation patrimoniale de leurs activités. Et en 2024, donc on va voir les résultats. Voilà, donc là je vous ai mis, vous pourrez regarder un peu plus dans le détail dans les slides quand ce sera sur Immediact. Je vous ai mis quelques extraits intéressants, souvent négatifs. Mais pas que, vous le verrez, mais voilà, c'est assez, c'est pour ça que je disais, c'était plutôt un constat lucide, hein, parce qu'il n'y a pas de misérabilisme, mais il y a quand même un constat que voilà, manque de visibilité, ça revient toujours, on est peu visible en fait auprès de notre hiérarchie, auprès du public externe. Problème budgétaire, ça on en a parlé au début, les moyens qui nous sont alloués, on va les utiliser pour autre chose que pour faire de la valorisation parce qu'on a peu de ressources. Le rôle de tiers-archiveur, c'est vraiment ce qui revient le plus. Voilà, c'est vrai que notre problème, et là c'est pas du tout une découverte pour vous, c'est vraiment qu'on on est considéré comme des stockeurs d'archives, des gestionnaires des archives n'ayant pas dépassé la DUA en fait. Et ça, c'est un problème qui revient beaucoup. Il y avait une remarque très intéressante, j'ai trouvé, sur l'identité de l'institution et qui viendrait à dire que si on a peine à faire reconnaître notre vocation patrimoniale, c'est aussi parce que voilà, on est dans une administration qui est entre guillemets assez récente, qui a été le sujet d'une fusion qui a quand même désorganisé un certain nombre de régions avec en 2016. Et il y a peut-être un voilà une identité institutionnelle qui existe moins chez nous qu'ailleurs et qui fait que voilà c'est difficile du coup de valoriser nos archives. Et le positif, donc il y avait quand même des réponses positives. Le fait que les actions qui ont été réalisées sur 10 ans depuis 10 ans quand même elles ont porté leurs fruits. Bah notamment un rattachement à la direction de la culture, une image de l'archiviste qui s'améliore aussi en fait quand il y a des actions de valorisation sur le patrimonial. Et voilà. Et le fait de plus on a des activités en ce sens, mieux on serait reconnu par nos pairs et aussi par notre hiérarchie. Voilà, c'est le côté positif. Et puis le positif aussi, c'est que il y a énormément de services qui ont répondu dans le questionnaire qui ont des projets. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est abandonné. C'est pas, il y a pas de fatalité. On sent vraiment qu'il y a une envie. Et je crois qu'il y a plus de la moitié, ou il y a presque la moitié des répondants des régions qui vont faire des actions de valorisation en direction de l'externe. Voilà. Donc là, c'est tout. Donc voilà, ce qu'on peut en conclure, ben c'est que il y a du travail, il y a du chemin à faire. Moi, à titre personnel, par exemple, sur la participation au JEP, par exemple, c'est vraiment étonnant, mais il y a un taux de participation très faible. Je crois qu'il n'y en a que 3 en tout qui participent fréquemment ou tous les ans. C'est vrai qu'on n'est pas associé. On manque de moyens, c'est sûr, financiers et humains. Et puis on a un public qui est quand même assez restreint. On a vécu les fusions, c'est vrai. On n'est pas toujours bien équipé au niveau des salles de lecture et tout. Mais quand même, en 10 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont développées, des inventaires qui ont été mis en ligne sur les sites des régions, des portails qui sont en train de se mettre en place ou qui se sont mis en place. Émergence d'un nouveau type de rattachement hiérarchique, avec aussi le rattachement à la DSI, on en parlait, ou à la culture, par exemple, qui nous dégage un peu de la fonction moyens généraux, et puis des projets pédagogiques qui se montent de plus en plus. Voilà. Donc gardons espoir, gardons la foi en fait pour cet aspect de notre métier.